Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Frédéric.
On en parlait avec notre invité et avec les auditeurs de France Inter. Il va faire chaud, très chaud aujourd'hui. Alerte à la canicule.
Étouffant, dit le Parisien. La Voix du Nord s'inquiète avec ce titre. La région est au régime sec. Mais où peut-on bien se mettre au frais? Se demande l'Est républicain. Alors on cherche de quoi se rafraîchir ce matin. On cherche de l'air, on cherche de l'eau. Prenez donc un peu d'eau, Frédéric Pétézou, vous allez voir, ça fait du bien. Et de l'eau, ce matin, on en trouve sur la planète Mars. De l'eau à l'état liquide, nous apprend la revue américaine Science, reprise ce matin par Science et Avenir et par le quotidien d'Outre-Quiévrin, la Libre Belgique. On s'en doutait depuis longtemps, cette fois c'est confirmé. On a découvert un vaste lac souterrain sur la planète Mars, ou plutôt un lac sous-martien. Il fait 20 km de large, ce lac, ce qui, mesdames et messieurs, relance l'hypothèse d'une vie microbienne sur la planète rouge. Bon, tempérons quand même un petit peu. Il se trouve en dessous de la surface de la planète, à 1,5 km, et cette eau n'est pas forcément potable parce qu'elle contient de fortes doses de sel et de minéraux qui se sont dissous. Autrement dit, c'est une eau saumâtre. Et puis, elle est maintenue dans un état liquide alors que sa température se trouve en dessous du seuil de congélation à cause de la présence vraisemblable de fortes doses de calcium, de magnésium et de sodium. Et ça, c'est peut-être de nature à compromettre une potentielle vie microbienne. Revenons sur Terre.
Avec de l'eau toujours.
De l'eau, oui, qui s'est déversée en quantité gigantesque avec l'effondrement d'un barrage hydroélectrique au Laos. 5 milliards de mètres cubes d'eau ont brusquement déferlé et ont englouti 7 villages dans le sud-est du pays. On ignore le nombre de disparus, ça se chiffre par centaines, nous apprend le journal Le Monde dans son édition datée d'aujourd'hui, 26 juillet. Seuls les toits, des bâtiments et les arbres émergent au-dessus des eaux boueuses. Et c'est là que se sont réfugiés les survivants. Ce qui est inquiétant est que cet accident était prévisible. Parce que depuis 10 ans, le Laos multiplie ce genre de construction, nous disent les deux journalistes du Monde, Bruno Philippe et Harold Thibault, en s'associant ou en attribuant des concessions à des entreprises étrangères, notamment chinoises. Il y a actuellement 10 barrages en service et 45 sont en construction. C'est un pays montagneux au remarquable potentiel hydroélectrique, écrit Le Monde, qui n'a pas d'industrie et qui est dirigé par un parti post-communiste autoritaire qui peut dès lors décider comme il l'entend de son modèle de développement et qui, en l'occurrence, se fiche complètement des conséquences à long terme et de l'environnement. Puisque ça n'est pas mieux sur Terre, retournons dans l'espace. Parce qu'il se passe des choses dans l'espace, Frédéric. Nous y triomphons, figurez-vous, nous, l'Europe, avec Galiléo. L'Europe est sur orbite. Orbite, titre à la une, le journal L'Opinion, s'est déroulé hier depuis la base de Kourou en Guyane le lancement de 4 nouveaux satellites du système européen de géolocalisation et de navigation Galiléo.
Et il marche du tonnerre ce système Galiléo.
C'est simple, c'est le plus performant et le plus moderne, s'enthousiasme dans les pages de L'Opinion Jean-Yves Le Gall, président du SNES, Centre National d'Études Spatiales. Avec le GPS américain, vous savez dans quelle rue vous êtes, reprend-il. Avec Galiléo, vous savez de quel côté de la rue vous êtes, il est 10 fois plus précis. Galiléo est en service depuis 18 mois et il est en train de monter en puissance. Au mois de février, on dénombrait 100 millions d'utilisateurs. Au mois de juin, 200 millions. Et aujourd'hui, un mois et demi plus tard, c'est 400 millions. C'est normal, c'est parce que les fabricants de téléphones portables haut de gamme commencent à intégrer Galiléo dans le système des nouveaux appareils. Et non seulement c'est une réussite, mais dans un contexte géopolitique tendu, c'est une vraie autonomie qu'offre Galiléo aux Européens. Alors que nous étions jusqu'ici complètement dépendants du GPS américain. Mieux encore, avec Galiléo, nous sommes peut-être en train de récupérer les Britanniques, car malgré le Brexit, dit Muriel Mode dans L'Opinion, le Royaume-Uni n'a aucunement l'intention de quitter ce programme. Il entend bien rester dans la constellation Galiléo. Ça fait même partie du livre blanc de Theresa May pour les négociations. En attendant, les Britanniques sont en plein brouillard, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Ils ont la tête dans le fog, écrit Quentin Laurent depuis Londres. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle reste froide. Leurs responsables politiques tergiversent, les indicateurs économiques s'affolent et les entreprises étrangères filent à l'anglaise. Ils ont l'impression, les Anglais, qu'on ne leur avait pas tout dit et se demandent à quelle sauce leur pays, une fois le Brexit consommé, va être mangé. C'est au point que les pétitions se multiplient pour réclamer un nouveau référendum. Pour le moment, il n'en est pas question. Mais comme on est en plein brouillard, il ne faut jurer de rien. Le brouillard, l'inquiétude, l'incertitude, c'est aussi ce qui taraude les députés de La République En Marche. Pas tout à fait rassurés par les derniers développements de l'affaire Benalla, dit encore Le Parisien. Le président Macron a-t-il bien fait de parler? Oui, ça c'est bien, ça a permis de ressouder les troupes. Mais est-ce que ça effacera les traces du scandale?
Et en attendant, Stéphane Robert, l'exécutif fait tout à sa contre-offensive.
Avec Emmanuel Macron à la manœuvre, très combatif le président. Qu'il vienne me chercher, a-t-il lancé à la cantonade. La provocation de dingue, s'offusque ce matin L'Humanité. accusant l'hyper-président d'être agressif et méprisant vis-à-vis des Français, de la presse et du Parlement. Ça n'a pas empêché l'Élysée d'être très conciliant hier, voire déférent avec la justice, puisque des juges ont pu perquisitionner le bureau d'Alexandre Benalla à l'Élysée sans qu'on leur oppose la moindre résistance. Mais bien sûr, entrez donc, messieurs, dames, l'Élysée respecte toutes les procédures judiciaires, indique-t-on au palais, et la présidence a à cœur de concourir au parfait déroulement de l'enquête. Pour un peu, on leur faisait aussi visiter le bureau du président. Seulement, cet accueil tranche avec les précédentes tentatives de la justice pour accéder au sein des saints, s'interroge pas dupe les deux journalistes du Parisien, Timothée Boutry et Myriam Ankawa. En 2007, les juges qui enquêtaient sur l'affaire Borel, du nom de ce magistrat retrouvé mort à Djibouti, n'avaient pas franchi le local à poubelle sous le porche d'entrée. Dans ces conditions, comment donc se fait-il qu'un jeune homme de 26 ans, Alexandre Benalla, a lui pu passer toutes les barrières et grimper dans un ascenseur pour l'Élysée, titre de l'hebdomadaire Le Point. Ce sont trois journalistes du Point qui se penchent sur la question. Marc Le Plongeon, Aziz Zemmouri et Jean Guinel. Et ils décrivent un Alexandre Benalla qui avait déjà fait des offres de service du temps de François Hollande et qui très tôt, disent-ils, cherchait un cheval qui l'amènerait au pouvoir. Avec Macron, il l'a trouvé, ce qui lui a permis de s'installer au cœur du pouvoir et de se constituer une panoplie du parfait barbouzard avec passeport diplomatique, badge d'accès toute zone aux aéroports de Paris et un petit Glock 43 de calibre 9-19 mm, un revolver aussi petit qu'un paquet de Marlboro, dont on ne trouve aucun exemplaire dans l'administration française selon un expert. Et comment donc a-t-il réussi à se rendre aussi indispensable à Emmanuel Macron ? Eh bien, parce que pour Benalla, rien n'est impossible, répond Le Point, citant un proche du chef de l'État. C'était même devenu un gimmick entre lui et le futur président de la République pendant la campagne. C'est impossible, alors on va le faire. Ce qui ne va pas le faire en revanche, ce qui paraît impossible, c'est que le Français Romain Bardet remporte le Tour de France cette année. Ni même figure sur le podium, il se trouve relégué à la 8e place à l'issue de l'étape d'hier. C'est la grande désillusion, se désole le Parisien. Et c'est la même chose pour l'ex-leader de la Sky, Christopher Froome, distancé par son coéquipier Geraint Thomas, à qui il a fait allégeance, nous dit le journal L'Équipe. Un jour au sommet, le lendemain on redevient porteur d'eau. Mais il en faut avec cette chaleur. N'est-ce pas Frédéric Mettezeau, vous reprendrez bien un peu d'eau ?
Ça rime. Merci Stéphane Robert. C'était la revue de presse.